Bonsoir à tous. Le bac 2019, tu l'as, tu l'as pas, ou tu attends résultat provisoire pour 35 à 40 000 candidats à cause de la grève des correcteurs contre la réforme de l'examen. Cris de joie, déception et questions dès le début du journal. Et au téléphone sonne également. Bonsoir Claire Savagent.
Bonsoir Sébastien Paour. Ben oui, on va essayer de répondre à toutes les questions qui se posent pour ceux dont le résultat est provisoire, puisque lundi, ce sont les oraux de rattrapage. Certains risquent d'y aller pour rien, d'autres de ne pas y aller alors qu'ils devraient y aller. Vous voyez un petit peu le casse-tête. On sera avec le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale et on attend vos appels au 01 45 24 7000.
Et on a beaucoup de questions pour lui. Merci Claire et à tout à l'heure dans 20 minutes. Au sommaire également ce soir, le début des vacances avec ou sans bac. Nous sommes sur le quai de la gare à Saint-Malo. Les Kerguelen, Crozet, Amsterdam au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus grande variété d'oiseaux et de mammifères marins au monde. L'Italie de Salvini, toujours fermée aux migrants sauvés en Méditerranée. Un nouveau bateau est devant Lampedusa. Le début du Tour de France, demain, sans Froome dans l'équipe favorite. Et puis le rap de Nekfeu, après celui de NTM, aux Eurockéennes de Belfort. Certains ont couru jusqu'au panneau d'affichage, d'autres y sont allés plus lentement, moins sûrs d'eux. Ce sont tous les ans les mêmes cris, les mêmes larmes dans les lycées pour les résultats du bac. Il y a ceux qui ne l'ont pas et ceux qui l'ont.
Au début, j'ai pas vu mon nom, j'ai paniqué, je me suis dit « Ah, je suis au rattrapage, c'est pas cool ». J'ai vu toutes les feuilles, j'ai bien scanné, et puis là, j'ai vu « mention très bien », j'ai pas cru. Ah bah là, c'est explosion de joie, euphorie générale.
Je m'attendais pas vraiment à la voir, j'avoue, j'ai pas trop révisé pour, mais franchement, je suis content.
Regarde Baptiste, débouche Baptiste.
Je l'ai eu tout juste, je suis à 10-3. J'ai jamais eu aussi haut en physique, j'ai eu 9, alors que d'habitude, je tourne à 3.
Je suis même pas au rattrapage.
Ah, vous êtes pas au rattrapage?
Je suis pas au rattrapage. Mais en fait, je m'en doutais un petit peu. Bon, ouais, du coup, ça va. Je le vis plutôt bien.
Les résultats du bac façon clair et net, compilés à Besançon et à Saint-Etienne, au micro d'Elia Bergel et d'Alexandre Berthaud avec Nicolas Sabat. Mais pour d'autres, les résultats sont donc provisoires à cause de certains enseignants correcteurs en colère contre la réforme Blanquer et qui gardent leurs copies. Ça concerne moins de 40 000 lycéens, 1% des copies d'après le ministère, une centaine d'élèves sur 140 au lycée Colbert dans le 10e arrondissement de Paris, des candidats Faustine Calmel qui espèrent que la situation va vite se régler.
Passée la joie de savoir qu'elle a bien son bac, Louise récupère son relevé de notes un peu perplexe.
Il m'a dit c'est explicatif, mais il m'a pas dit grand-chose. Nous avons fait partie des candidats concernés par la philosophie. Ah oui, sachant qu'en philo, j'ai pas une bonne moyenne. Philosophie, ah oui, j'ai 10. Par contre, je comprends pas comment j'ai eu 10, sachant que j'ai eu 9 toute l'année.
Une incohérence de plus, mais qu'importe, Louise voudrait surtout savoir quelle est sa note réelle, celle de l'examen, parce que les écarts peuvent être énormes, raconte ce prof de maths.
Pour le dossier d'un élève qui avait toutes ses notes, mais simplement on a consulté son dossier pour savoir si on lui donnait le bac le premier coup ou s'il allait au rattrapage. Il avait 3 en maths, et en contrôle continu, il avait 12. Alors imaginez qu'on a mis cette note à la place de son 3, enfin, ça ressemble plus à rien.
Géraldine enseigne, elle, l'histoire géo. Gréviste, elle a retenu les copies qu'elle devait corriger. Et même si elle ne décolère pas, elle est désormais prête à communiquer les notes.
Je ne les ai pas rendues, je les ai toujours. Pour l'instant, je vais aller les rendre tout à l'heure. Pour les élèves, je vais les rendre, pour que les élèves aient leur vrai résultat et qu'ils puissent faire des recours.
Une fois toutes les copies rendues, d'ici lundi, espère le ministère, les jurys vont à nouveau délibérer. Ils devront statuer sur les cas particuliers de ceux à qui un changement de note permettrait par exemple d'aller au rattrapage ou d'avoir une meilleure mention.
Et dans l'enquête sur les soupçons de fuite aux épreuves de maths en série ES et L, les 4 suspects devraient être mis en examen. Ils sont présentés au juge. 2 candidats qui auraient acheté les sujets à un couple de trentenaires. Le bac 2019 et ses bugs. On y revient donc au téléphone sonne à 19h20. Le bac en poche, certains sont peut-être déjà sur la route des vacances. C'est rouge ce soir et demain en Ile-de-France, orange au niveau national. Et il y a du monde aussi dans les trains, où la SNCF attend 25 millions de voyageurs sur les 2 mois d'été. Bastien Munch est lui à Saint-Malo, où l'on guette les premiers vacanciers dans le TGV qui arrive de Paris.
Le quai de la gare de Saint-Malo est rempli de gens qui attendent. En fait, ils scrutent l'arrivée d'un train à l'horizon. C'est le cas de Patricia, elle attend son petit-fils. Il doit rejoindre ses 7 cousins pendant un mois dans la maison des grands-parents à Saint-Briac, sur la côte.
C'est super agréable, très fatigant, mais super agréable. C'est la logistique qui est plus dure, les repas, on s'amuse bien. On va à la plage, on fait du paddle, ils vont nager, on fait des jeux de société. On peut faire plein de bêtises, c'est super agréable, j'en profite. Non, on fait des parties de cache-cache, des trucs comme ça, enfin des trucs que je fais plus à mon âge, quoi.
Ils arrivent ?
Ils arrivent.
Vous avez repéré ?
Oui, ça, j'ai repéré. C'est facile, c'est le rouquin, le petit gamin. Oh,
oui, il y a mamie aussi. Je m'appelle Jules Giraud.
Que tu te réjouis à chaque fois de venir chez mamie
Oui.
En vacances ?
Oui, parce que c'est trop bien. Et tous mes cousins, cousines. On fait beaucoup de bruit, ça les gêne. Des fois, quand il fait trop chaud, on met le jet d'eau et on s'amuse.
Et alors, Jules n'est pas seul. Ses parents en ont profité pour venir sur la côte pour le week-end avec leur petite fille de 9 mois.
Respirer le bon air frais de la mer, ça nous fait du bien par rapport à Paris, là, où c'est un petit peu pollué en ce moment, donc on respire mieux ici.
Mais pour les parents, les vraies vacances, ça commencera dans un long mois, toujours sur la côte bretonne.
Reportage avec les mouettes et les goélands, signé Bastien Munch à Saint-Malo. Près de 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés tout l'été sur les sites particulièrement touristiques, d'après le ministre de l'Intérieur. Là, ce sont des destinations dont on rêverait pour les vacances. L'archipel de Crozet, les îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam dans le sud de l'océan Indien. On est pas loin de l'Antarctique. Les terres et mers australes françaises sont désormais classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 673 000 km² à plus de 2000 km de tout continent, où l'on trouve notamment la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde, comme le confirme Christophe Aubel, le directeur général de l'Agence française de la biodiversité. Il rentre des Kerguelen et Célia Kiré l'a eu au téléphone.
C'est la reconnaissance à l'international de la richesse et de l'importance de ces territoires français aux antipodes, hein, à l'autre bout du monde. C'est des territoires qui sont importants dans le contexte du dérèglement climatique parce que c'est des laboratoires d'observation, c'est des millions et des millions d'oiseaux marins, c'est une importance au niveau mondial sur les manchots royaux, les manchots papous, mais c'est aussi les grands albatros, hein, ce géant des mers que Baudelaire a raconté dans ses poèmes. C'est des mammifères marins comme les orques, mais aussi des otaries qui sont là. Et puis c'est des fonds marins qui sont extrêmement riches. On pourrait, si on ne savait pas où on était, avoir l'impression d'une richesse comme des coraux. Quand l'UNESCO reconnaît un territoire comme celui-là, il va regarder, donc ça veut dire que ça renforce la politique de protection et donc ça permet sur la durée de maintenir cette protection et donc de l'aider.
Le site de Babylone en Irak entre aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que le plus grand parc national d'Europe, Vatnajökull en Islande. Hier à Anchorage en Alaska, il a fait 32 degrés. Le précédent record remontait à 1969, 29,4 degrés.
Un réquisitoire accablant au procès de France Télécom.
C'est la fin de 2 mois de procès, 10 ans après les suicides au sein de l'entreprise, rebaptisée depuis Orange. L'ancien PDG Didier Lombard, son ancien numéro 2 et l'ancien DRH sont notamment jugés pour harcèlement moral. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
D'anciens dirigeants qui ont cherché, disent les procureurs, à déstabiliser les salariés.
Oui, cheveux blancs coupés courts, la procureure Françoise Benezek commence en s'adressant à l'ancien PDG de France Télécom. Quel dommage, Didier Lombard, dit-elle, qu'un esprit organisé comme le vôtre ait été mis au service d'un seul impératif économique, au point de vous rendre sourd et aveugle à tout ce qui n'était pas votre intérêt. Le ton est cinglant, la procureure moque le blabla managérial pour rappeler à chacun ses responsabilités. Louis-Pierre Vénès, c'est l'ex numéro 2 de France Télécom. Vous vouliez faire vite, faire vite, faire vite. Vous parlez chiffres, vous oubliez l'humain. Olivier Barbereau, c'est l'ancien DRH. Vous avez dit, il suffit de mettre une pression forte partout et le maximum partira. Pour la procureure, les dirigeants ont mis au point un plan délibéré de déstabilisation pour faire partir 22 000 personnes en 3 ans. Vous avez conscience que vos méthodes vont dégrader les conditions de travail. Vous le saviez, assène-t-elle. La démonstration est aussi étayée qu'implacable. Avec ce procès, vous allez faire jurisprudence, rappelle le parquet, en caractérisant un harcèlement managérial. Ce serait en effet une première. Alors le réquisitoire est toujours en cours. On attend de connaître les peines demandées. Elles ne pourront pas être supérieures à ce qui est encouru au maximum pour harcèlement moral, c'est-à-dire 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Corinne Audouin, merci. Au Palais de Justice de Paris, le procès se termine jeudi prochain et ce sera à la place lundi aux plaidoiries de la défense. Dieudonné, condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes et 200 000 euros d'amende. Le polémiste est notamment soupçonné d'avoir détourné plus d'1 million d'euros de recettes de ses spectacles. Son avocate annonce qu'il va faire appel. La politique avec la République en marche vers les municipales. Les présidents de la commission d'investiture du parti et le délégué général Stanislas Guérini étaient reçu ce matin à l'Élysée, notamment évidemment pour évoquer Paris et ses 5 candidats qui passent leur grand oral mardi prochain. 2 favoris, Benjamin Griveaux et Cédric Villani, et les 3 autres, Anne Le Breton, Antonio Duarte et Hugues Granson. Le député du 15e arrondissement qui poursuit sa campagne, François Rossi, il visitait ce matin une maison d'assistante maternelle.
Une visite de 30 minutes pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce lieu de travail, un regroupement de 4 assistantes maternelles au cœur du 8e arrondissement.
Du coup là, vous n'avez plus aucune activité chez vous, à domicile. Toute votre activité professionnelle, c'est dans cette maison ici.
Le candidat Hugranson est en campagne pour étoffer son projet, qui comporte une mesure phare, supprimer les mairies d'arrondissement, quand Benjamin Griveaux veut lui leur donner plus de pouvoir. Un programme qu'il présentera mardi prochain devant la Commission nationale d'investiture de La République En Marche. Ce grand oral arrive selon lui beaucoup trop tôt.
J'ai dit que nous n'étions pas prêts aujourd'hui à faire un choix. Il n'y a pas de candidature plus légitime qu'une autre. Aujourd'hui, on voit bien la situation politique à Paris bouge de jour en jour, d'heure en heure quasiment, et donc prenons le temps.
Le plus dur pour lui existait dans un laps de temps très court face à deux figures du parti comme Cédric Villani et Benjamin Griveaux, avec qui il veut avoir un vrai débat d'idées.
On a 5 visions pour la ville qui sont différentes. Eh bien, profitons-en pour en parler. C'est une richesse, mais nous devons débattre parce que nos visions pour Paris, celles de Cédric Villani, celles de Benjamin Griveaux ou la mienne, sont des visions qui sont différentes, pour ne pas dire contradictoires parfois.
Mi-juin, il avait demandé avec d'autres concurrents la tenue d'une consultation auprès des adhérents pour le choix des candidats. Une primaire qui ne dit pas son nom. La commission d'investiture de La République En Marche avait alors rejeté cette éventualité.
François Rosy pour ce reportage aux côtés d'Hugranson.
L'Algérie qui fête aujourd'hui les 57 ans de son indépendance.
Et la rue veut faire de ce 20e samedi de mobilisation contre le pouvoir la libération de l'homme après celle de la patrie. Manifestation dans le centre d'Alger notamment. Alors que le président par intérim propose de créer une instance de dialogue pour sortir de la crise et organiser la présidentielle tout en promettant la neutralité de l'État et de l'armée. Un nouveau bras de fer devant Lampedusa, cette fois entre Matteo Salvini et un voilier qui a porté secours à 54 migrants au large de la Libye et veut les débarquer sur l'île italienne. Bateau affrété par un collectif italien de gauche et d'extrême gauche et dont le ministre de l'Intérieur ne veut toujours pas entendre parler, Mathilde Imberti. Les réfugiés pourraient être débarqués à Malte.
Un accord semble avoir été conclu entre l'Italie et Malte. Malte l'annonce, mais Rome ne confirme pas encore. Les autorités de La Valette disent avoir accepté de recevoir les 54 personnes secourues par le voilier italien de l'ONG Mediterranea en échange de la prise en charge par l'Italie de 55 migrants actuellement sur le sol maltais. Quand et comment le transfert de ces personnes sera-t-il effectué? Pour l'instant, elles sont encore en mer. Seules 13, les plus vulnérables, les femmes et les enfants, ont pu être débarquées sur l'île de Lampedusa. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, ne s'est pas exprimé sur cet échange. Il s'est d'abord battu pour que le voilier italien ne débarque pas en Italie. Il lui avait demandé de conduire les migrants en Tunisie. Il y a donc ce soir en mer Méditerranée 2 bateaux avec des survivants de l'enfer libyen, le voilier italien Alex donc, mais aussi le navire d'une ONG allemande, CI, qui elle a secouru 65 personnes au large de la Libye ce matin. Matteo Salvini a immédiatement annoncé qu'il ne les accueillerait pas et a écrit à son homologue allemand pour lui demander de trouver une solution. De Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
La capitaine du Sea-Watch, Carola Racchetto, va porter plainte de son côté contre Matteo Salvini pour diffamation. Son avocat a fait la liste des insultes formulées ces dernières semaines contre elle. Comme celle-ci, je n'ai pas peur des mafieux. Alors imaginez une communiste allemande riche et gâtée. Quant au bilan de la frappe du maréchal Haftar mardi sur un centre de migrants près de Tripoli, eh bien il est désormais de 53 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame ce soir un cessez-le-feu en Libye. Gibraltar assure qu'il n'a pas agi sur ordre des États-Unis. Le territoire britannique a pris seul l'initiative d'arraisonner un navire iranien hier soir au large de ses côtes. Bateau soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie malgré les sanctions. Le pétrolier sera immobilisé 14 jours. Téhéran convoque l'ambassadeur britannique.
Il est 19h14, Sébastien Paour, on passe au sport avec Sergueï Boubka et Alexander Popov qui démentent.
L'ancien perchiste ukrainien et l'ancien nageur russe assurent qu'ils n'ont pas reçu de pot de vin en échange de leur voix pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Vincent Pellegrini, c'est l'ancien gouverneur de la ville qui les accuse.
C'est en 2009 que Rio a obtenu l'organisation de ces JO 2016 à l'issue d'un vote qui n'a pas fini de faire des vagues. À l'époque, le plus grand perchiste de l'histoire, Sergueï Boubka, est le président du Comité National Olympique Ukrainien et Alexander Popov est un membre éminent de la Commission des athlètes du CIO. Tous deux ont vivement réagi aux accusations de Sergio Cabral. « Je n'ai même pas voté pour Rio », a déclaré Alexander Popov. De son côté, Sergueï Boubka a complètement rejeté ces accusations, précisant que l'ancien gouverneur de la ville de Ohio, purgeait actuellement une longue peine de prison pour corruption. C'est en effet devant un juge brésilien que Sergio Cabral a mis en cause Sergueï Bubka et Alexander Popov. Il a précisé que c'était l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, qui avait arrangé cet achat de voix en distribuant au total 2 millions de dollars à des membres du CIO. Lamine Diack est actuellement en attente d'un procès devant le tribunal correctionnel de Paris qui le soupçonne d'avoir été au centre d'un vaste système de corruption destiné à couvrir des cas de dopage de nombreux athlètes russes.
Benoît Paire en huitième de finale à Wimbledon, le français 32e mondial retrouvera l'espagnol Bautista Agut pour une place en quart. Le foot et cette confirmation du président du Barça lui-même, il est intéressé par Antoine Griezmann. Une réunion avait lieu hier avec la direction de l'Atlético Madrid. Quant au mondial féminin de foot qui se termine en France, c'était la meilleure Coupe du Monde féminine de l'histoire, d'après le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Finale dimanche à Lyon entre les États-Unis et les Pays-Bas. Et le Tour de France qui débute demain, comment sera-t-il? Y aura-t-il un Français sur le podium, voire sur la plus haute marche, avec les absences de Dumoulin et de Froome, deuxième et troisième l'an dernier? La course part donc demain de Bruxelles, 50 ans après la première victoire d'Eddy Merckx, et vous êtes déjà sur place évidemment. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Sébastien.
Avec un nom à retenir dès maintenant, nous dites-vous, Egan Bernal, un gamin de l'équipe Ineos, l'ancienne Sky, qui pourrait bien s'imposer dans 3 semaines sur les Champs-Élysées, c'est ça?
Ouais, Sébastien. D'ailleurs, quand les journalistes l'ont questionné tout à l'heure en conférence de presse sur Eddy Merckx, Egan Bernal n'avait pas grand-chose à dire. La barrière de la langue, ok, mais aussi le choc des générations. Le Colombien n'a que 22 ans et a grandi dans la région de Bogota à plus de 2600 mètres d'altitude. Grimper, c'est dans son ADN.
Je ne fais pas trop attention aux analyses, mais c'est un plus pour moi de vivre en altitude en Colombie. Et j'espère que ça va me servir pour les étapes de montagne. C'est bon pour moi, c'est sûr.
Malgré son allure juvénile, Egan Bernal est déjà prêt. Vainqueur de Paris-Nice en mars et du Tour de Suisse le mois dernier, le Colombien a déjà tout d'un grand du Tour pour son directeur sportif Nicolas Portal.
C'est quand même incroyable de le voir aussi mature, il écoute. Après, en même temps, il a cette fougue, il faut garder cette fougue, c'est important. C'est comme Jay, il paraît calme et tout, mais ce sont des gagnants, quoi. C'est cette fine balance entre arriver à être calme, réfléchi dans les moments où ils sont en pleine douleur, quoi. Et Egan a déjà ça à 22 ans, quoi.
Et le seul souci d'Egan Bernal, Sébastien, il s'appelle Geraint Thomas, hein, le fameux Jay dont parle à l'instant Nicolas Portal. Geraint Thomas, le tenant du titre, est leader naturel de son équipe, enfin, pour l'instant.
Et toujours à propos de l'équipe Ineos, merci Xavier Monferrand en direct de Bruxelles avec Sandrine Malon. Chris Froome, blessé en juin sur le Dauphiné, a quitté l'hôpital. Il est rentré chez lui hier. Première étape demain donc, 194 km 500 au sud de la capitale belge avec une arrivée au sprint. À suivre entre 11h et midi sur Inter et sur la RTBF, le par Jupitour des Belges Charlie Devizorek avec leur complice Meurice évidemment. On termine avec les Eurocaines de Belfort. Il y avait du lourd hier soir pour l'ouverture. Les New Yorkais d'Interpol et NTM. Au programme ce soir, Nekfeu et Jeanne Haddad pour une 31e édition. Mathieu Culeron qui affiche déjà complet.
D'ores et déjà, on le sait, les Eurocaines édition 2019 seront un succès, une grande satisfaction pour Jean-Paul Roland, le directeur du festival.
Hier, on a dû tourner autour de 27 000. Voilà, et puis aujourd'hui et demain, on fera le complet, c'est-à-dire 2 x 35. Et le dimanche, j'attends encore, puisque les ventes vont être là. Donc on va dire qu'on va être dans une fourchette, à mon avis, qui va tourner autour de 125 000, ce qui est quand même dans les très bonnes années des Eurocaines. Donc on est bien content, quoi. C'est un très bon cru. Oui, vraiment.
La reine de la soirée pour ce deuxième jour des Eurocaennes de Belfort, ce sera incontestablement Jeanne Haddad qui jouera ce soir à minuit 45. Jeanne qui a des souvenirs particuliers avec les Eurocs.
Ah ouais, c'était mon tout premier festival. Donc j'avais été invitée par Skip the Use la veille de mon concert, donc sur la grande scène, et on faisait un concert le lendemain en ouverture de site, donc vers 16h, un jour de canicule sur la petite scène à côté de la grande scène, et j'ai adoré ça. Et puis c'est les Eurocs, c'est un festival qui est quand même assez fantastique, en tout cas pour les musiciens, c'est-à-dire que tu peux vraiment te balader de scène en scène de manière très fluide et très facile. Et j'ai adoré ça.
Les Eurocaennes de Belfort jusqu'à dimanche avec également ce soir le rappeur Nekfeu, le reggae d'Alpha Blondy et l'électro de Compromat.
Et Jeanne Haddad sur scène ce soir aux Eurocaennes. Merci Mathieu Culeron. Le temps.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Élodie Callac, vous nous annoncez une dégradation orageuse.
Et oui, déjà ce soir, des orages gagnent les régions de l'ouest vers le centre. Ils peuvent être forts sur le Poitou, les Pays de la Loire, le Limousin. Demain matin, entre la Vendée, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le centre, le ciel sera chaotique avec des éclaircies, mais aussi quelques averses, parfois accompagnées d'un orage costaud. Au fil des heures, ce temps instable gagnera l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, avec des orages parfois forts, de la grêle, de fortes rafales de vent.
Et ce sera plus calme ailleurs.
Oui, entre la Bretagne, le nord de la Seine, la région parisienne, les frontières du Nord. Le soleil sera bien installé. Alors, on ne sera pas à l'abri tout de même d'un petit coup de tonnerre le matin. Et puis, entre le sud-ouest, la Méditerranée, du soleil. Un peu de patience quand même au sud de la Garonne. Les nuages auront l'avantage le matin. Cette nuit sera trop chaude, souvent 18 à 22 degrés jusqu'à 24 à Nice. L'après-midi, il fera 22 à 29 degrés près de la Manche et près de l'océan. 30 à 34 ailleurs et jusqu'à 36 encore en vallée du Rhône.
Élodie Callac, Météo France. Merci.